France Inter, le 18-20.
Depuis ce matin, sur l'antenne de France Inter, en partenariat avec France 2, avec l'UNICEF aussi, bien sûr, on parle d'enfance abusée, alors que c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'enfance. Nous, ce soir, dans le téléphone sonne, et pour conclure, avant un rendez-vous sur France 2, dont je vous parlerai tout à l'heure, nous allons essayer d'être pas forcément plus léger, mais de parler aux enfants qui ne sont pas toujours tendres envers d'autres enfants. Par exemple, s'intéresser à ce qui se passe dans la cour de l'école. On va parler de harcèlement d'un enfant sur l'autre, parfois petit. On va parler de moqueries, de phrases blessantes, de jugements sur la famille, sur les habits, sur ce que sont les autres enfants socialement plus défavorisés, qui sont en général les premières victimes. Et d'après les chiffres, ce sont les petites filles qui sont les plus touchées. Un peu comme si, finalement, tous les mauvais comportements de la société se retrouvaient dans la cour de l'école et au-delà, dans les relations sur Internet, dans les messages qu'on reçoit, et autant de choses que les parents voient rarement ou parfois ne voient jamais, les humiliations qui peuvent aller parfois très loin, les mauvaises rencontres aussi, et on y viendra. Au point que l'UNICEF recommande d'ailleurs de la place pour des activités de petites filles, on verra ce que ça peut vouloir dire, une meilleure information sur la sexualité, pourquoi pas une meilleure mixité des usages et des publics. Dur alors d'être une petite fille, on a sorti quand même tout cela d'un point d'interrogation, et soyez les bienvenus dans le téléphone sonne.
Fabienne Saintès. Le téléphone sonne.
Alors d'abord, on commence toujours par un coup de téléphone. Je voudrais qu'on commence par un mail que nous a envoyé Lola, qui est en classe de 5e. Elle est dans le Cantal. Et voici ce que nous dit Lola. On me dit souvent, dit-elle, que je suis bizarre et que je suis chelou, voire possédée. Je n'écoute pas du rap et la musique que tout le monde écoute autour de moi. Moi, j'aime le punk. Je n'ai pas de console. Je n'ai pas de télé. J'ai l'impression qu'ils me prennent tous pour une extraterrestre. Je suis souvent seule. Je n'ai que 3 amis qui ne sont pas dans ma classe. J'essaie juste de montrer ma vraie personnalité, ce que personne au collège ne fait, et ça me vaut beaucoup de moqueries. Je trouve que tout ça, c'est pas normal. Il est formidable, le témoignage de Lola. Je suis contente qu'on puisse commencer avec ça, avec autour de la table ce soir, jusqu'à 20h. Julie Zerlotte, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable plaidoyer sensibilisation à l'UNICEF France. Vous avez piloté notamment la consultation Les enfants ont la parole, dont on parlera tout au long de ce téléphone sonne. Bonsoir Florence Millot. Vous êtes psychologue pour enfants et adolescents. Vous avez écrit Je ne me laisse pas faire dans la cour de récré. C'est publié chez Auray. Et bonsoir Sophie Andoni.
Bonsoir.
Vous êtes collégienne, tu es collégienne, je vais encore me faire enlever si on se tutoie, mais à 12 ans, c'est difficile de faire différemment, et tu as participé à cette consultation, oui. Et tu pourrais nous en parler. Tiens, commençons avec toi. Est-ce que tu en connais des Lola un peu chelou, comme on dit dans la cour de l'école.
Des Lola un peu chelou, oui. J'en ai connu et j'en connais, d'ailleurs.
Et qui sont chelous comment, d'ailleurs? Ça veut dire quoi, chelou, quand on
a
12 ans?
En fait, chelou, quand on a 12 ans, c'est plutôt qu'on n'accepte pas trop les différences de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une norme qui est créée un peu à l'école. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être comme ça, il faut avoir une télé. Par exemple, comme elle le dit, elle n'a pas de télé. Et comme tout le monde a une télé dans son école, il la trouve chelou parce qu'elle n'a pas de télé. Donc, justement, ça, c'est un peu une norme qui a été fixée à l'école pour dire, voilà, si toi, tu n'as pas ça, t'es pas comme nous.
Faut être
donc,
sur les réseaux sociaux.
Oui, voilà, faut être sur
Snapchat.
Tout le monde.
Faut avoir les mêmes fringues.
Oui, voilà, avoir des marques, avoir des trucs comme ça, alors que on peut être comme on est. Enfin, on est comme on est. On a une personnalité. Chacun est différent. Donc voilà, c'est ça qui fait la richesse.
C'est intéressant ce que dit Sophia, Florence Millot, et ce que dit d'ailleurs Lola aussi. J'essaie juste de montrer ma vraie personnalité, ce que personne ne fait au collège, dit-elle. Et effectivement, comme nous l'explique Sophia, si t'es pas dans la norme, c'est que t'es dans les marges et ça va pas.
Alors, j'ai envie de dire au collège, mais même finalement pour toute la vie, quand on n'est pas dans un groupe, c'est très compliqué.
C'est juste que c'est beaucoup plus difficile quand on est un gamin de 12 ans, j'imagine, que quand on est adulte. Enfin, remarquez, c'est pas toujours simple, mais.
Bien sûr, parce que il y a cette envie d'être dans le groupe. Après, ça peut marquer aussi une vraie personnalité de la part de cet enfant qui a quand même conscience de beaucoup de choses. Et même si c'est difficile quand même à vivre et ça peut aussi durer plusieurs mois, voire plusieurs années, ça peut aussi lui forger un caractère. Et justement, quelle est cette liberté plus tard d'être qui elle est? Parce qu'on voit qu'à déjà, à son âge, elle a déjà envie de l'être. Et ça, je trouve ça déjà formidable à son âge.
Mais on n'aime pas la différence. Quand on a cet âge-là, Julie Zerlotte, c'est ce qui ressort de ce qu'on entend. On n'aime pas la différence quand on est un gamin. Est-ce que ça commence avec les fringues, effectivement, mais est-ce que ça va au-delà même? Ça veut dire aussi éventuellement le voisin qui n'habite pas le même quartier ou qui n'a pas la même couleur? Est-ce que ça peut aller loin, pas ce refus, mais cette différenciation en tout cas?
Alors, ça peut aller très loin, mais ça peut surtout commencer très tôt. Parce qu'en fait, dans notre consultation, donc on a interrogé plus de 26 6000 enfants de 6 à 18 ans, et on se rend compte que dès l'âge de 7-8 ans, la moitié des enfants disent « je suis victime de moqueries ou d'attaques blessantes à l'école », ce qui est déjà quelque chose d'extrêmement grave.
C'est beaucoup.
Voilà. Et ensuite, c'est quelque chose qui évolue avec l'âge, alors en fonction du collège, du lycée, de l'âge de chacun. Et ensuite, il y a des des formes de pression qui sont différentes, qui peuvent effectivement venir des réseaux sociaux, puisque les enfants sont quand même plus d'un quart à dire que sur les réseaux sociaux, ils sont victimes de harcèlement ou de moquerie également. Ça peut également venir dans la rue pour les jeunes filles, on en parlera j'imagine encore tout à l'heure, mais c'est vrai que les filles sont beaucoup plus sujettes au harcèlement de rue que ne le sont les garçons. Et ça évolue évidemment avec l'âge, et quand elles sont adolescentes à 17-18 ans, c'est vraiment un vrai sujet et un vrai problème qu'elles rencontrent déjà.
Est-ce que ça veut dire, alors je vais essayer de formuler ça correctement, est-ce que ça veut dire que quand on a été harcelé dans la cour de l'école, quand on est petit sur des histoires d'habits ou autre chose, on est plus sujet ou plus enclin à avoir des remarques de rue après, ou à mal vivre ces remarques de rue parce qu'on a l'impression d'être toujours dans cette même idée et mouvance que les autres ne vous aiment pas? Est-ce qu'en gros, quand ça se passe mal dans la cour de l'école, il y a toutes les chances pour que ça se passe mal dans la rue après, ou pas?
Alors, il y a forcément un certain nombre de conséquences qui peuvent être dramatiques pour ces jeunes, effectivement. Je pense que la conséquence qui est la plus dure pour les filles, c'est le fait de se reléguer de l'espace, dans l'espace privé, et de se priver finalement de l'espace public, pour se dire, moi je me protège en restant chez moi et en faisant moins de choses que les garçons. Et ça, je trouve que c'est déjà une conséquence dramatique. Et ensuite, on aura effectivement des personnes qui vont être dans des situations de sensibilité particulière, avec des addictions, avec l'alcool, avec des scarifications pour les filles, avec des comportements à risque qui deviennent, et on le voit, c'est vraiment corrélé dans notre étude, des comportements à risque qui évoluent avec l'âge en fonction de la teneur de ce harcèlement possible.
Ça veut dire, Julie Zerlaut, qu'il faut le repérer tout de suite, en fait, pour éviter qu'on en arrive effectivement à des excès qui sont ce que raconte Florence.
C'est effectivement fondamental, oui.
Ouais. Et Florence Mignot, je vous ai confondu toutes les deux, c'est pour ça. Ça veut dire, comment on fait pour non seulement s'en rendre compte, mais pour aider à sortir les gamines de cette espèce d'enfermement dans laquelle elles risquent d'aller, pour en finir effectivement peut-être à des excès dont on parlait à l'instant, ou alors on parlait de harcèlement sur Internet tout à l'heure. Si on se regroupe sur soi, on a plus tendance à être sur Internet et peut-être d'aller y faire des mauvaises rencontres notamment.
Alors, je crois que les parents ont souvent un bon ressenti, mais n'osent pas toujours aller jusqu'au bout. Ils ont l'impression que c'est la crise de l'adolescence, par exemple, et que c'est normal. Mmh. Mais souvent, il y a quand même une petite voix à l'intérieur qui dit « il y a un truc qui va pas ». Et je pense que ça, c'est la première chose à suivre, c'est quand on voit un enfant se renfermer, même si c'est une toute petite chose, si par exemple il y a des jours où il veut pas parler, même si c'est pas forcément des grandes choses, hein, on a toujours des grandes idées en tête, mais aller vers son enfant, et au quotidien, alors pas forcément tous les jours, mais quand même fréquemment, que ce soit autour de la table, s'il veut pas parler de sa journée ou le soir, aller vers et lui dire, je sens bien qu'il y a quelque chose qui va pas, je vois bien que t'as pas trop envie de me le dire et je peux comprendre, par contre tu sais que la porte est ouverte. Alors ça veut pas dire que l'enfant va parler tout de suite, par contre il a cette petite graine dans la tête qui sait, il sait qu'il y a une fenêtre ouverte quelque part, et une semaine, deux semaines plus tard, il peut aussi savoir que son parent est présent. Ensuite, la deuxième chose, vous parliez d'Internet tout à l'heure, c'est vraiment, à mon sens, d'être un parent moderne, c'est-à-dire essayer de comprendre aussi avec son enfant les applications qu'il peut avoir sur son téléphone, par exemple, les connaître même un peu avant lui, et surtout pas forcément lui interdire, parce qu'à l'adolescence, de toute façon, on a envie de tester plein de choses. Mais le fait de les connaître, ça permet aussi d'anticiper, de dire, tu vois comment on peut te manipuler par rapport à des photos, par exemple, comment on peut les utiliser sans forcément lui faire peur, mais vraiment lui apprendre finalement comment les autres pourraient faire pour l'embêter. Et déjà dans le cerveau, entre guillemets, ça permet à l'enfant d'avoir un coup d'avance et de se défendre encore un petit peu mieux.
Sophie, on en parle de ça dans la cour de l'école ou pas?
Dans la cour de l'école, on en parle surtout en classe. En fait, on a eu une intervention il y a deux semaines, le 8 novembre, sur justement le harcèlement à l'école. Donc on avait vu plusieurs formes d'harcèlement, donc le harcèlement classique, donc à l'école, les insultes, les moqueries. Mais on voyait que ça continuait...
Classique, c'est déjà si terrible de dire que c'est un harcèlement classique. Oui, bon, ça c'est du harcèlement normal, je veux dire.
Voilà, qui est banal, mais on a aussi le harcèlement, le cyberharcèlement, justement. Donc, quand un enfant qui est harcelé, il se dit, bon, je rentre chez moi, tout est fini, je vais enfin pouvoir souffler. Là, il voit qu'il va sur son ordinateur, il voit qu'il a reçu des nouveaux messages. Donc, le harcèlement continue et ça cesse jamais, en fait, ça s'arrête pas.
Mais est-ce que vous avez, vous, le sentiment, vous, entre filles, que vous êtes plus harcelé, plus ennuyé, plus moqué que les garçons ou pas? Est-ce que du coup, vous en parlez d'ailleurs entre vous les filles? Est-ce que vous vous regroupez entre vous les filles? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez réellement ou pas?
Nous les filles, ben, on va dire qu'il y a toujours des exceptions, mais je pense personnellement que les filles sont plus sujettes au harcèlement que les garçons, vu que les garçons ont ce principe de virilité chez eux, donc de montrer que voilà, je suis un homme, je suis un garçon, voilà, moi je fais ci, moi je fais ça, du coup de dominer l'autre, et c'est ça qui fait que les filles des fois elles sentent en insécurité, elles préfèrent se regrouper en groupe de filles.
Et en même temps c'est intéressant parce que dans le vocabulaire de Sophia, Florence Millot, il y a le vocabulaire qu'on utilise nous, les adultes, en fait, pour dire les mêmes choses. C'est quand même terrible de se dire qu'on est dans cette espèce de micro-société de la cour de l'école, avec tous les gros traits et tous les excès, tout le n'importe quoi qu'il peut y avoir dans nos sociétés à nous, qui se retrouvent en micro-société dans la cour de l'école. Ça marche exactement pareil, en fait, au fond.
Mais aussi avec les internets, les médias sociaux, aujourd'hui, les enfants ont exactement accès pratiquement à la même information que nous. Donc, c'est normal que le paysage aussi ait changé, mais que du coup, au niveau émotionnel, c'est beaucoup plus dur pour un enfant de savoir un peu ce qui va se passer. Surtout qu'à l'adolescence, on se sent tout puissant. En général, ce que dit notre parent, on s'en fiche un peu. On sait très bien que nous, ce sera différent. Et au final, non, c'est pas différent. Parce que derrière ça, il y a aussi beaucoup d'adultes, il y a aussi un autre monde que l'enfant, et c'est normal, n'arrive pas à maîtriser. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a vraiment quelque chose à faire de la part des adultes, justement, pour agir auprès des enfants, alors qu'avant c'était peut-être moins nécessaire. C'était justement, comme tu disais tout à l'heure, c'était plus classique. On lui donne un coup de poing, ça se voit, c'est fini,
on répond, c'est endigué, et puis c'est fini.
Et puis terminé.
Et qu'on en finisse. Bonsoir Anne.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, Anne, on vous écoute.
Oui, mais je vous appelais parce que ma fille qui est rentrée en CE2 dans une nouvelle école est victime de harcèlement scolaire. Alors c'est pas particulièrement parce qu'elle est une fille, je sais pas d'ailleurs pourquoi c'est, mais elle est mise à l'écart, ostracisée par ses camarades, on dit que ce qu'elle touche est contaminé. On critique également effectivement sa tenue, rien ne va jamais comme elle me dit, un jour c'est ses tennis, un jour c'est ses chaussettes, un jour, enfin bref. Et donc j'ai rencontré plusieurs fois la directrice, qui est aussi la maîtresse, et je lui ai demandé finalement que ma fille change d'école. Et en réalité, la seule réaction, c'est de demander à ma fille d'aller vers les autres, c'est-à-dire ceux qui la discriminent, qui la persécutent. Donc ça remet presque un harcèlement supplémentaire sur le harcèlement qu'elle subit déjà.
Quelle pression surtout pour elle.
Oui, voilà, c'est une charge mentale qui est invraisemblable pour un enfant de 8 ans. Quoi.
Et donc ça veut dire que vous n'avez pas pu la changer d'école et que vous ne pouvez pas la changer d'école
ou pas? C'est toujours compliqué. Bah oui, c'est compliqué. Moi, je suis toute seule avec ma fille. Notre organisation, elle est minutée. Je travaille. Mmh. Et donc la changer d'école, ça veut dire avoir un quart d'heure de plus de trajet. Le matin, au soir, etc., par rapport aux activités. Et donc, c'est compliqué. Et comme dans cette école, il y a plusieurs classes de chaque niveau, j'ai demandé, ça me semblait, le changement de classe, quelque chose de simple. Donc, comme j'ai rien pu obtenir au niveau de l'école, j'ai fait appel récemment à l'ensemble des instances. Alors, moi, quand j'y vais carrément. Donc, j'ai fait l'inspecteur d'académie, la rectrice, le ministre, le délégué à la prévention des violences scolaires, la médiatrice de l'éducation nationale, l'inspecteur de circonscription, tout le monde. Et pour le moment, j'attends.
Eh ben, dites donc, vous pouvez recevoir beaucoup de courriers. Cela dit, c'est intéressant. Ce sera intéressant de voir d'ailleurs si ces gens parlent les uns les autres. Ce que j'entends, Anne, dans ce que vous nous dites, c'est que quand même votre fille vous parle. Ce qui est déjà quelque chose d'important, en fait.
Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui est précieux. Et parce que je crois que c'est important, c'est de prendre au sérieux. C'est-à-dire de pas leur dire, comme on dit souvent, c'est des histoires d'enfants, réglez ça entre vous. Parce que c'est pas des histoires d'enfants. Justement, je crois que c'est important. Et c'est ce que je reproche à son école, c'est que au niveau où on en est, c'est aux adultes de prendre ça en charge. C'est plus à elles, c'est plus aux enfants, c'est les adultes qui doivent régler le problème. Et là, les adultes démissionnent. Alors aujourd'hui, c'est la grande mode dans son école. Il y a aussi un système qu'ils appellent les gilets jaunes. C'est des enfants qui sont médiateurs.
Alors,
je trouve que c'est une charge qui est énorme.
Il va falloir changer la couleur. Hein.
Oui, j'avais pas réalisé. Mais j'avais pas réalisé ça. Mais c'est quelque chose qui est très très à la mode de dire c'est les enfants. Mais pour ceux qui font ça, c'est quelque chose d'énorme. Et là, c'est pareil. Alors quand il y a un enfant qui lui dit une vacherie, on lui leur dit allez dans le couloir, vous excusez. Enfin, c'est pas quelque chose qui est à la hauteur, ça. Mmh.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Anne, et on souhaite bon courage à votre fille, parce qu'effectivement, les conseils qu'on lui donne sont quand même assez rudes. Enfin, on va voir ça ensemble. Julie Zerlot, ce que j'entends là, c'est aussi cette pauvre gamine, une fois ennuyée par l'un, vient l'autre, et puis le troisième, et puis le quatrième, et au fond, on finit souffre-douleur, parce que c'est la mode de se ruer sur cette gamine-là en particulier, en fait.
Oui, tout à fait, et c'est vrai qu'on le ressent vraiment dans notre étude, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'accumulation qui se fait auprès de ces enfants et donc de fragilité. Et on s'est rendu compte, on a même publié très récemment une étude internationale qui montre que le harcèlement a même des répercussions sur les résultats en lecture. C'est-à-dire que c'est corrélé. En France, on est un des pays riches où les résultats en lecture sont les plus corrélés avec le harcèlement. Ce qui veut dire que ça a des conséquences bien au-delà de la seule perception de l'enfant et de l'accompagnement qu'on devrait lui donner en tant qu'adulte, de toute façon.
Florence Millot, quand on suggère à cette petite « va vers les autres pour leur dire que tu étais normale et que tu vas bien », c'est très très rude quand même, non, comme conseil.
Et surtout, effectivement, cette maman a tout à fait raison, c'est-à-dire que l'adulte, donc à savoir la directrice, ne prend pas la mesure de ce que peut ressentir l'enfant, mais ce qu'on remarque le plus, dans les vraies situations aussi de harcèlement, que ce soit au collège ou au lycée, c'est que même l'adulte finit par avoir peur du harcèlement, et on le voit très fréquemment que justement les adultes n'interviennent pas, parce que ils ont aussi cette impression que les enfants peuvent avoir une emprise sur eux, parfois il y a du harcèlement sur 20 ou 30 élèves sur un enfant, de ce que j'ai déjà entendu. Et on sent que même intérieurement, il y a une sorte de mécanisme de défense qui se met en place. En fait, je ne veux pas l'entendre. Des fois, c'est tellement violent que même l'adulte, même le directeur n'est pas capable de l'entendre. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on en parle tellement aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'écoles qui, parfois, ont besoin d'un peu écarter l'affaire ou l'étouffer parce que ça finit par faire peur, parce qu'effectivement, ça peut prendre aussi énormément d'ampleur.
Sophia, quand on se rend compte, parce qu'on le voit forcément dans la cour de l'école, qu'il y a une petite comme la fille de Anne par exemple qui est prise à partie par tout le monde, j'imagine que finalement c'est compliqué aussi d'aller vers elle ou pas ?
En fait, ça dépend des
personnes. Est-ce qu'on risque d'être ostracisé aussi si on décide d'aller vers celle qui est ennuyée par les autres?
Oui, en fait, comme je l'ai vu aujourd'hui durant notre intervention, on nous avait expliqué, c'était le témoignage d'une fille qui disait que, en fait, tous les jours, enfin, c'était une fille qui était nouvelle, justement, comme la fille de la dame qui vient d'appeler, donc Anne, qui était donc justement seule dans la cour et qu'elle avait pas trop d'amis parce qu'elle était nouvelle dans l'école. Et en fait, on va dire que c'est un peu les harcelés, et ils ont repéré cette personne, ils ont vu qu'elle était toujours seule, qu'elle mangeait toute seule à la cantine ou des choses comme ça, et ils ont décidé de se mettre à plusieurs sur une personne. Et justement, ça fait que tous ceux qui sont témoins donc du harcèlement sont comme les harceleurs en fait, parce qu'il y a que deux groupes dans le harcèlement finalement, il y a les harceleurs et les harcelés. Si on fait pas partie d'un des deux groupes, on fait forcément partie de l'autre. Donc ça veut dire en fait le ressenti de l'harceleur, parce que c'est devenu mon amie, la fille en question. Donc du coup, elle m'avait dit qu'elle le ressentait de cette manière-là, c'est-à-dire que toutes les personnes qui faisaient rien, qui n'intervenaient pas quand elle voyait qu'elle se faisait harceler et tout, et elle les considérait en fait comme des harceleurs parce qu'ils n'intervenaient pas, ils étaient là, ils rigolaient. Eux, peut-être que eux, dans le fond, ils pensaient que c'était juste pour rigoler, mais en vrai, quand on fait une blague et la personne à qui on fait une blague ne rigole pas, ça veut dire que c'est pas une blague et ça fait pas rire.
Ça veut dire que c'est pas drôle. Oui. Michel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y,
c'est pas ma question. Oui, j'appelais pour faire état d'une violence particulière qui existe de manière assez fréquente, pour pas dire généralisée dans les cours de récréation. C'est les chahuts et bagarres qui sont plutôt caractéristiques des garçons et qui passent un peu pour presque normal, puisque les garçons c'est normal, ça se bat. Mais je me demande si c'est pas assez mal vécu par beaucoup de garçons. Alors ce sont pas des violences psychologiques comme les harcèlements dont on parle là, mais voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez, c'est de mettre souvent en avant les violences vécues par les filles, banalise pas un peu cette violence qui est assez généralisée concernant les garçons, et peut-être plus généralisée même.
Et merci pour votre question, Michel. Florence Millot, évidemment que ce mal-être existe aussi chez les garçons. Et ce que semble dire Michel, là, c'est aussi que leur seul moyen de défense, finalement, les uns les autres, y compris quand on se comprend pas dans une conversation, c'est finalement d'en venir au chahut et même à se battre. C'est un truc qui est réel ou pas ?
Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus repéré parce que finalement, c'est une violence qui se voit. Et quand une violence se voit, elle est plus facilement endiguée que, comme on parlait tout à l'heure, du cyberharcèlement. Après, c'est vrai que ça pose la question. Alors là, c'est un homme qui parle, c'est intéressant aussi de voir que les hommes, à leur mesure aussi, ou les jeunes garçons ont parfois aussi du mal à s'exprimer. Et quand justement ils s'expriment, ils paraissent aussi faibles parce qu'on est encore un peu malheureusement dans ces idées préconçues où l'homme doit fonctionner comme ci et puis la petite fille ou la femme doit fonctionner comme ça. Donc c'est intéressant d'avoir aussi son point de vue pour voir que les les garçons aussi vont avoir cette souffrance aussi, parce que forcément ils sont harcelés, mais pas forcément de la même manière. On parlait tout à l'heure, c'est plus les petites filles, les adolescentes pardon, qui sont harcelées par rapport à leur physique. On parlait du harcèlement de rue, mais les garçons aussi peuvent subir beaucoup de moqueries, mais vont beaucoup plus parfois encaisser, et du coup la douleur aussi reste intérieure, et c'est ça qui est intéressant d'entendre aussi.
Et du coup Alexandre sur franceinter.fr demande pourquoi finalement ce sont plus spécialement les petites filles qui sont victimes de harcèlement, Julie Zerlaut.
Alors c'est effectivement les petites filles qui sont plus à risque par rapport au harcèlement, mais en revanche dans cette étude on peut comparer vraiment la perception des filles et la perception des garçons, et on se rend compte que les garçons ne sont pas victimes de la même chose, donc ils sont beaucoup plus victimes d'insultes et beaucoup plus victimes de rapports effectivement.
Donc de coups peut-être du côté
alors,
chahut
Les coups, on n'a pas posé la question. On était vraiment sur la perception de la violence verbale beaucoup plus. Et c'est vrai qu'eux en font état beaucoup plus que les filles. Mais on a analysé cela avec Serge Pogam qui est sociologue et Catherine Dolto qui est médecin haptothérapeute, qui nous disent en fait ça fait partie des relations qui se construisent justement dans l'enfance, dans l'adolescence, entre les filles et les garçons entre eux, dans ce modèle de virilité dont tu parlais tout à l'heure, Sophia aussi. Et c'est vrai qu'ils ont plus tendance à rivaliser entre eux avec des insultes que la petite fille ou la jeune fille va être forcément ostracisée par rapport à ses vêtements, par rapport à son physique, parce qu'on a l'impression que c'est la chose qui va la toucher le plus. C'est un peu caricatural de dire ça, mais c'est quand même ce qui ressort globalement.
Et bon, quand on parle de choses caricaturales, mais effectivement qui ressortent, Sophia, moi je voudrais savoir à quoi ça ressemble une cour d'école au fond, en fait, entre les garçons et les filles. On a l'impression que l'espace n'est pas le même pour les uns ou pour les autres, pour les unes ou pour les autres surtout.
Oui, exactement. Donc vraiment là, il faut que je sois franche. Je pense que c'est un peu ma mission en tant que porte-parole de l'UNICEF de dénoncer ça. C'est que les garçons, oui, on voit trop souvent qu'ils sont au centre de la cour, que vraiment c'est eux qui occupent la plus grande partie de la cour. Et souvent, on voit les filles sur les côtés ou sur des bancs. Et on peut voir d'ailleurs que dans les plus de 26 000 enfants qui ont participé à la consultation, il y en a beaucoup de filles disent que voilà, nous dans la cour, on est tout le temps sur les côtés. Donc pour dire qu'il n'y a pas que moi qui le dis. Donc moi c'est un constat que je fais, mais après je tire ça aussi de la vie de tous les jours, des témoignages que j'ai pu recueillir au cours de ma scolarité. Donc du coup on voit que
le boy spreading, comme on dit, le man spreading aujourd'hui.
Oui, voilà. En fait. Donc du coup on voit que les filles elles ont des petits jeux à elles, comme les cordes à sauter, les élastiques, choses comme ça. Et les garçons généralement ils jouent au foot, ils sont
ça prend plus de place.
Voilà. Donc du coup pour faire les cages, le milieu de terrain, donc, il faut un grand espace, et donc du coup ils prennent la majorité de la partie de la cour.
Mais du coup moi ce qui m'intrigue c'est d'abord un, est-ce que tu leur dis attendez poussez-vous, vous avez qu'à faire des cages plus petites. Deux, pourquoi vous jouez pas au foot avec eux? Alors pardon d'être volontairement naïve, mais pourquoi vous venez pas jouer au foot au lieu de jouer à l'élastique au fond?
Bah en fait c'est un peu, on va dire, sur le terme de virilité que j'employais tout à l'heure, on va dire que c'est les garçons généralement, ils sont, bon, ça reste un terme général, ils sont plus sportifs que les filles. C'est à dire que dans ce contexte là, donc il y a toujours des filles qui sont plus sportives que les garçons ou le contraire, mais généralement les garçons justement avec ce terme de virilité ils essayent de le prouver justement en jouant à des jeux comme la bagarre, enfin les trucs comme ça qu'on voit souvent dans les cours de récréation, ou alors au foot, donc des activités sportives, physiques, pour pouvoir voilà dire ouais, moi j'ai marqué ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Et en fait, les filles, elles voient qu'elles sont pas trop dans ce contexte-là de virilité et tout, donc du coup, elles se disent mais pourquoi moi je vais faire ça, je préfère des coiffures, des trucs de filles. Et comme les garçons, ils aiment pas trop se mélanger en filles.
Misère!
Des coiffures et tout.
Voilà. Cliché. Misère!
Aïe, 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 on n'est pas sortis des ronces.
Oui.
Sophia, tu voulais finir, pardon, termine.
Du coup, on voyait que les filles, elles sont sur les côtés. Donc nous, on leur dit souvent, oui, mais poussez-vous, vous avez qu'à faire des cages plus petites. Mais en fait, on se prend souvent des ballons dans la figure ou des choses comme ça. Du coup, on est un peu obligé à se pousser. Enfin, comme il y a beaucoup plus de garçons contre nous, enfin, en mode, ouais, poussez-vous, nous, on veut jouer. Donc, du coup, face à la pression des garçons, du coup, on préfère un peu se pousser sur les côtés pour éviter les ballons dans les têtes.
La pression des garçons. Mathias, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y, vous
justement, écoutez, Mathias. Ça, c'est peut-être un regard un petit peu de ce que vient de dire votre jeune intervenante. qui s'exprime très bien, mais que je trouve est beaucoup dans les clichés, comme vous dites. Déjà, un premier, j'ai d'abord exprimé un petit peu mon petit témoignage, en fait, de collégien à l'époque. Moi, j'ai été un collégien sans doute bizarre, un peu intello, etc. Mais j'en ai pas souffert, en fait, du tout, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y avait un certain respect de ça, et quelque part, ce qui m'a beaucoup fait souffrir, par contre, c'est de voir mes collègues, enfin, mes camarades, eux, par contre, se faire harceler. Qui trop gros, qui trop machin, trop efféminé, pas assez grand, pas assez petit, etc. Mmh. C'était vraiment, pour moi, c'était une très sale expérience.
Parce que vous aviez les moyens de lutter, c'est le sentiment que vous aviez pendant que d'autres n'avaient pas les moyens, en fait.
Oui, moi, j'étais un fourangle, c'est-à-dire, si quelqu'un venait me chercher, venait me dire, ouais, t'es un sale intello, je lui disais, écoute, c'est ton problème. Ça. Mmh. Voilà. Mais le problème, c'est que je vois cette chose se répéter, en fait, dans la société, comme vous disiez tout à l'heure. Mmh. Et c'est là où je pointe l'éducation, qui est vraiment quelque chose qui, à mon avis, est un grand échec. Bon, moi, je suis chercheur en écologie aujourd'hui, et je vois qu'il y a un grand échec, en fait, dans la diffusion des idées écologiques dans la société. Et je la lie précisément au collège, aux années collège, puisque c'est le moment où, justement, la parole, en fait, la parole qui fait foi, doit être affirmée aux enfants. Or, justement, dans un monde de fake news, etc., ça arrange bien les collégiens un petit peu fort en gueule que sont les Trump et compagnie, et qui n'ont pas évolué depuis leur plus jeune âge, en fait, hein, si on voit bien, qui prennent le pouvoir et qui empêchent, en fait, les bonnes réalisations d'arriver.
Merci Mathias pour ce témoignage. Juste en un mot, est-ce que c'est au collège que tout se passe, pardon pour ce cliché pareil là, mais est-ce que c'est vraiment le moment charnière, effectivement, avant d'entrer au lycée, peut-être dans quelque chose de plus adulte, donc c'est là qu'on se forme réellement et que ces mauvaises habitudes sont prises ou déprises, au fond,
par rapport aux moqueries, vous voulez dire,
ouais, par exemple.
Ah, pour moi, c'est plutôt dès le primaire. Effectivement, je disais votre étude, peut-être plus les garçons quand ils sont petits et les filles à l'adolescence, mais les moqueries de tout âge, même à la maternelle, moi j'entends parfois, il y a des enfants qui sont déjà stigmatisés par d'autres enfants qui ont le même âge. Après, ce qui est intéressant dans le témoignage
de Mathias,
c'est qu'effectivement, quand on n'accompagne pas son enfant pour savoir qu'est-ce qu'on peut répondre à un enfant qui t'embête, de manière très très concrète, c'est-à-dire avoir des phrases type...
Mais c'est ça, et c'est là qu'on répond, en fait, parce que normalement on a l'âge, on doit pouvoir y aller, alors lui pouvait le faire, mais il y en a d'autres évidemment qui n'ont pas les moyens de le faire, mais
alors,
là
on
peut répondre.
Qui ont peur de le faire. Il y a des enfants qui sont très empathiques, filles ou garçons, et qui ont peur de faire mal, qui ont peur d'être en colère, qui ont peur de se faire gronder par l'adulte. Au final, ils disent rien. Et c'est là où finalement la petite flèche empoisonnée entre guillemets de l'insulte vient à l'intérieur et l'enfant n'arrive pas à répondre. Mais ce qui est intéressant, c'est de comparer finalement comme Mathias des enfants qui arrivaient justement à répondre. Qu'est-ce qu'ils ressentent dans leur tête et qu'est-ce qu'ils se disent pour réussir à dire non, j'ai aussi une valeur. Donc finalement, c'est quoi ton problème et débrouille-toi. Et les autres enfants qui, là, à mon sens, sont accompagnés, donc ceux qui sont traités de petits gros, etc., pour leur demander, qu'est-ce qui t'empêche de répondre ? C'est la question fondamentale du parent envers son enfant. Et deux, qu'est-ce que concrètement tu vas pouvoir lui dire pour qu'il ait une sorte d'arme verbale concrète quand il revient dans la cour d'école pour que ça s'arrête ?
Bonsoir Laurence.
Oui, bonsoir.
Et bienvenue Laurence, on vous écoute.
Alors voilà, je voulais témoigner. Moi, j'ai 55 ans aujourd'hui, mais j'ai souffert d'un harcèlement, je crois, de la maternelle jusqu'au bac. Je suis née rousse avec des taches de rousseur. Donc ça a commencé toute petite, du plus profond de mes souvenirs. Les petites filles ne me donnaient pas la main puisque j'avais des taches. Et ces taches sur les mains auraient pu être contagieuses. En plus, j'avais des lunettes un petit peu à la Léon Zitrone dans les années 70, vous voyez.
Oui, je vois bien. Je Simone, bien. J'ai donc, cassé mes lunettes.
Voilà. Donc, cette rousseur, donc les roues, ça pue, etc. Je vous avoue que j'en ai souffert. J'en souffre plus aujourd'hui, à 55 ans. Voilà. Dans les années 70-80, ma mère, très brune, me dit « Oh, mais c'est pas grave, regarde Marlène Jobert. » Voilà. Marlène Jobert avait réussi sa vie. Moi, je subissais ça tous les jours, quotidiennement, donc j'étais assez isolée. Et quand j'ai eu mon premier enfant, il y a 22 ans aujourd'hui, il est né roux. Et donc, mon premier sentiment quand j'ai vu mon magnifique bébé avec sa petite tignasse rousse, ça m'a ramené à l'enfance. J'en ai eu mal au ventre, enfin j'avais déjà mal au ventre de l'accouchement, mais j'ai eu peur. J'ai eu peur pour lui, là je me suis dit, et ça va recommencer. Ça, c'est pour vous dire que le harcèlement, enfant, on est marqué au fer rouge pour la vie, je pense.
Oui,
ça ressort à des moments de la vie. Et moi, je vous avoue, je l'ai très mal, très très mal vécu. Mais bon, j'avais pas d'écoute de mes parents. Aujourd'hui, j'ai repris un travail dans un collège. Et j'ai entendu parfois, on l'entend encore, le requin qui pue. Alors là, j'interviens, donc je demande en général à l'élève, alors les requins, ça pue, explique-moi ta théorie, ta thèse, etc. Et puis voilà, moi je lui explique aussi que les roues étaient brûlées pendant l'Inquisition, c'est dans l'âge de comprendre. Mais on est marqué au fer rouge, quoi. C'est un truc que je ne supporte pas.
Mais Laurence, pardon, pour votre fils, ça s'est passé comment?
Très bien.
Voilà, très, comme très bien preuve que lui. Quand même...
C'est lui qui me le dit. Maintenant, bon, s'il avait été vraiment harcelé, je l'aurais peut-être vu, parce que nous, les parents, on voit pas toujours tout. Mais marqué au fer rouge, oui, quand même.
Merci. Voilà. Merci pour ce témoignage, Laurence.
Merci à vous. Et bravo au petit jeune homme là de l'UNICEF qui témoignait.
Petite jeune fille, Sophia. Ah bah attendez, parce que alors déjà qu'on a des problèmes avec les clichés de genre, avec Sophia, si en plus vous le traitez de garçon, on a tout mélangé là.
Toutes mes excuses, Sophia.
Aucun souci.
Et bonne continuation.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci Laurence, au revoir. C'est intéressant ce que dit Laurence, Julie Zerlot sur le tant que ça dure. Elle a 55 ans, elle les entend encore, ces gens l'insulter dans la cour de l'école.
C'est effectivement un témoignage qui est extrêmement touchant et je pense que cette dame a eu la force d'accompagner son fils, justement, et c'est la question que j'avais aussi au bout des lèvres, c'est comment ça s'est passé pour votre fils avec la crainte que vous aviez. Et je pense qu'elle a eu, comme vous le disiez tout à l'heure, Florence, justement, cette écoute et cet accompagnement possible pour son propre fils et je pense que ça a été salvateur pour lui certainement. Donc effectivement il y a ce vécu qui marque au fer rouge comme elle le dit, mais et c'est extrêmement difficile d'entendre ça et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour cela et toute la démarche qu'on a que vous avez en cabinet, que nous avons en termes d'interpellation, va dans ce sens-là, c'est-à-dire comment est-ce que les adultes, on peut les réveiller pour aider dans ces cas-là.
Florence Millot, c'est drôle, enfin c'est drôle, non c'est pas drôle évidemment pour notre amie auditrice, mais ça paraît être une insulte d'un autre âge par ailleurs, mais vraiment, et au-delà même de ses 55 ans, ça paraît être quelque chose d'un autre âge, ce genre de choses qu'on entend peut-être encore dans les cours de l'école finalement. Elle dit oui, Sophie, avec la tête, avec les roues.
Oui, pour tout, mais non, ça ne me paraît pas d'être un autre âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, peu importe le style, la couleur, la taille, les cheveux, n'importe quel enfant, finalement, peut être victime de moquerie, même quand on est trop beau, trop intelligent, trop riche. Enfin, tout est prétexte à moquerie. Mais ce qui était intéressant, je trouve, dans le témoignage de cette maman, c'est que le mot-clé, effectivement, c'est l'écoute. Elle dit, finalement, ça a été, je suis marquée au fer rouge parce que j'ai pas été écoutée. Et aujourd'hui, comme vous dites tout à l'heure, tout ce qui n'est pas écouté, s'imprime, s'engramme à l'intérieur de nous parce que finalement, on finit par croire que c'est vrai. Donc, il y a une part de nous qui dit bah non, les roues sont comme ci, comme ça, et une autre part qui dit bah peut-être que si on s'est moqué de moi toute ma vie, c'est qu'il y a une part de moi qui n'est pas forcément bonne. Alors c'est pas forcément conscientisé comme ça, mais une fois que c'est exprimé, peu importe, quand on est parent, quand on ne sait pas trop quoi faire, on n'a pas besoin d'être psychologue, juste d'écouter son enfant et d'être ok avec son ressenti pour qu'il puisse comprendre que finalement c'est le ressenti des autres, mais c'est pas le sien. Et ça, juste lui poser la question, bah, et toi, est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est vrai ce que les autres disent de toi? Juste cette phrase, ça permet déjà à l'enfant de se construire pour dire non, c'est pas mon espace à moi, c'est les autres qui me considèrent comme ça.
Tiens, on a un directeur d'école au 01 45 24 7000. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Bienvenue Antoine.
Merci. Je voulais appeler pour apporter un témoignage dans ma pratique de directeur d'école. J'ai l'habitude d'être attentif à l'écoute des enfants et des familles. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier les enfants. Alors, j'ai pas envie de dire emmerdeurs, j'ai pas envie de dire harceleurs, je vais dire emmerdeurs, entre guillemets, excusez-moi. Mais ceux qui embêtent les autres, souvent, ces enfants leur famille culpabilise lorsqu'on leur fait état de problématiques à l'école. Les enfants culpabilisent aussi. Et donc, moi, au final, dans la pratique, lorsque j'essaye de discuter avec tout le monde, je passe plus de temps avec ces enfants-là et ces familles-là pour justement faire déculpabiliser et puis rompre la spirale, faire prendre conscience des propos, des actes qu'ont ces enfants vis-à-vis des autres. Et c'est avec eux que je passe le plus de temps pour tout en prenant en compte, bien sûr, les autres familles, mais c'est avec eux que je passe le plus de temps.
Mais voilà. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, que c'est plutôt vers les filles que les problèmes se posent ou pas? Est-ce que c'est flagrant dans votre école, par exemple?
Pas du tout. Moi, à l'expérience, j'ai une école de 10 classes. Je dirais pas qu'il y a plus de filles que de garçons. Là, l'usage empiriquement, je pourrais pas dire ça. J'ai pas le recul suffisant.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Antoine. C'est compliqué, effectivement, parfois, Julie Zerlaute, pour les directeurs d'école, avoir le bon langage, donner les bonnes clés, y compris aux parents, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que... Alors, moi, je ne veux pas insister sur le côté les filles plus que les garçons, etc. Mais on se rend compte quand même que les petites filles sont plus fragilisées par un certain nombre de ces situations, et notamment aussi leur situation sociale. Et donc, une petite fille qui va être dans une situation de précarité, de privation, etc., elle va être encore plus sujette à ce type de situation. Et donc, malheureusement, là-dessus, il n'y a pas beaucoup de mots à mettre, si ce n'est de l'accompagner, d'accompagner ses parents.
Mais on entend, quand on entend Sophia tout à l'heure, qu'il y a des choses qui sont terriblement intégrées, en fait. Enfin, je pense aux garçons qui prennent de la place pendant que les filles sont collées sur les murs. Tiens, il y a ce témoignage qui nous vient de Grenoble sur franceinter.fr. Il n'y a pas assez de travail fait sur l'égalité entre les filles et les garçons. Moi, j'ai une fille qui aime le rugby et elle ne peut pas aller faire du sport avec les garçons. C'est beaucoup plus simple pour elle, finalement, si elle va faire de la danse avec les filles. Et ce qui rejoint ce que disait Sophia à l'instant, en fait, y compris les petites filles et y compris dans l'époque que l'on vit aujourd'hui, les clichés ont la vie dure, quoi. Mais sérieusement, la vie dure, Florence Millot. Non ?
Oui, et en même temps, aujourd'hui, comme avant, certains types de populations, entre guillemets, étaient stigmatisés, donc c'était les autres, entre guillemets. Aujourd'hui, comme tout le monde est stigmatisé, je trouve qu'effectivement, c'est une période qui est très dure à vivre pour les enfants, mais en même temps, qui nous réveille, parce que finalement, aujourd'hui, comme on sait que notre enfant, n'importe lequel, finalement, peut être touché et stigmatisé, je pense que ça aide aussi à réveiller la conscience de on est tous différents et on a tous une place.
Allez, je voudrais qu'on finisse avec le témoignage de Marianne. Marianne, vous avez très peu de temps, mais ça nous aidera à boucler la boucle. On vous écoute et soyez la bienvenue.
Ben, merci beaucoup, merci, bonsoir. Écoutez, moi je voulais témoigner parce que j'ai été très marquée au début de l'émission par le témoignage de la petite Lola. J'ai eu vraiment l'impression d'entendre les paroles de ma propre fille. D'ailleurs, je l'ai appelée pour qu'elle vienne écouter. C'est vraiment exactement les mêmes mots et la même problématique. Donc voilà, pour notre fille, ça a été un problème qui a été assez violent, de violence verbale, etc. Et qui a été même jusqu'à du harcèlement avec des insultes qui... parce qu'elle avait, elle a voulu avoir en sixième les cheveux courts, qui allaient de « Ah, t'es une petite lesbienne » à « Machine la thug » en permanence, tous les jours, dès que certains groupes la croisaient dans le collège. Donc, voilà, je voulais dire ça. Si la petite Lola entend, voilà, elle n'est pas seule. C'est vraiment, j'ai vraiment été très marquée par la ressemblance de la parole par rapport à la différence et au droit d'être différent et d'avoir sa propre personnalité, de pouvoir l'exprimer librement sans recevoir de la violence. Et je voulais juste rajouter que à un moment donné, Mme Chantel, ça dit que peut-être ça reproduisait aussi la même violence qu'on subissait dans d'autres groupes sociaux, dans la société, etc. Moi, j'ai l'impression que dans le cas d'une société, dans le cadre du collège, c'est presque encore plus violent parce qu'il finalement il n'y a pas de filtre de la parole. C'est comme si la parole chez ces jeunes n'avait aucune valeur et n'avait aucune conséquence. Et voilà, j'ai pas l'impression que dans d'autres groupes qui font société, comme je sais pas, une entreprise, etc. Enfin, moi, on m'a jamais dit t'es une thug ou une pute parce que t'es habillée comme ça. C'est pas. Je crois que la violence c'est encore presque pire dans le groupe social.
Pardon de vous interrompre, Marianne, parce que l'heure tourne, et merci pour ce témoignage. On a vraiment entendu ce que vous disiez, effectivement. Peut-être que quand on n'a pas de filtre et qu'on est gamin, c'est plus difficile. Il nous reste peu de temps. Je voudrais vous remercier vraiment les uns les autres et puis embrasser au passage, effectivement, la petite Lola qui nous a fourni ce premier témoignage. Et on espère que ça se passe bien pour elle dans son collège. Merci à tous. Portez-vous bien.